SBS Radio.
Et on commence ce journal avec les grands titres de l'actualité. Le point sur l'enquête à Paris après l'assassinat de 4 policiers au sein même de la préfecture de police. La situation à Hong Kong, là où même les heurts continuent à travers la nuit. Et en sport, nous sommes à la veille de la grande finale de NRL, c'est du rugby. Et on débute donc ce journal en France avec quelques jours après l'attaque meurtrière de la préfecture de Paris. Je vous rappelle les faits. Un homme armé d'un couteau a poignardé ses collègues au sein même donc de la préfecture. Le bilan fait état de 4 morts plus l'assaillant. L'homme, un père de famille de 45 ans, a été tué. Ce qui questionne les enquêteurs maintenant, c'est ses fréquentations. En effet, il semblerait qu'il était proche de certains milieux salafistes. Sa femme a été mise en garde à vue. C'est une brigade antiterroriste qui est maintenant chargé de l'affaire, Pierre-Olivier.
Le fait que le parquet antiterroriste se saisisse de l'enquête signifie que les policiers ont des suspicions sur les réelles motivations de l'assaillant. L'enquête, qui était jusqu'à présent diligentée par le parquet de Paris, a d'ailleurs été reprise sous les qualifications d'assassinat et tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste, ainsi que pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Désormais, cette enquête a été confiée à la fois à la brigade criminelle de la police judiciaire qui était sur cette affaire depuis jeudi, mais également à la sous-direction antiterroriste de la DGSI, les services de renseignements intérieurs français. C'est après les premières auditions de l'entourage du meurtrier et l'exploitation de son téléphone portable que les enquêteurs ont petit à petit envisagé la piste terroriste. Et ce qui a mis les policiers sur cette voie, ce sont aussi certaines fréquentations de l'agresseur, âgé de 45 ans, en lien avec la mouvance salafiste. Enfin, sa femme, en garde à vue depuis jeudi, a dit aux enquêteurs que son mari aurait entendu des voix dans la nuit précédant son passage à l'acte. Avec cette nouvelle requalification de l'enquête, sa garde à vue pourra d'ailleurs être prolongée jusqu'à 96 heures.
Et c'était donc Pierre-Olivier pour RFI. Pour les autorités, toutes les mesures de sécurité étaient prises dans l'enceinte même de la préfecture, ce qui ne semble pas être l'opinion d'Yves Lefebvre, le secrétaire général du syndicat policier SGP. On l'écoute.
Effectivement, on s'aperçoit qu'on a eu une faille dans le système, une faille immense, une faille criminelle, terroriste. Et aujourd'hui, la question à se poser, c'est simplement comment cela a-t-il pu arriver? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire pour pas que cela puisse arriver? Manifestement, il y a eu des loupés, mais des loupés qui sont peut-être compréhensibles au demeurant, mais il faut savoir pourquoi ça s'est passé pour pas que ça puisse se renouveler. Parce qu'effectivement, j'ai entendu le préfet de police dire « on est prêt à l'extérieur, et fort heureusement d'ailleurs au demeurant, mais en intérieur, alors on ne va pas filtrer, on ne va pas fouiller tous les sacs, tous les effets de nos collègues administratifs, actifs, qu'importe, qui rentrent dans la préfecture de police, dans tout commissariat. » Mais le problème qui se pose aussi, c'est la conversion à un âge avancé de cette personne. Comment se fait-il que cela n'ait pas attiré l'attention de sa hiérarchie? On a sous-évalué la menace, et pour ça, moi, j'exige des réponses, des éléments de réponse, tant pour mes collègues que pour l'opinion publique.
Voilà, donc c'était Yves Lefebvre, le secrétaire général du syndicat policier SGP. 13h05, direction Hong Kong maintenant. Les suites de l'enquête sur les coups de feu tirés sur un manifestant, c'était cette semaine. La police de Hong Kong dit croire qu'il existe un cas de légitime défense de la part de l'officier. Les incidents se sont produits dans le district de Huanglong, dans le nord du pays. C'était lors de manifestations contre la nouvelle loi interdisant les masques, les masques dans la rue. L'interdiction est entrée en vigueur aujourd'hui et en vertu de pouvoir d'urgence de l'ère coloniale qui n'ont pas été utilisés depuis plus de 52 ans. La surintendante Yolanda Yu Hong Kwan a déclaré que le policier avait ouvert le feu après avoir été attaqué par des manifestants alors que sa vie était sérieusement menacée. On l'écoute.
A large group of rioters attacked at Clifford's police officers in Yunnan district. The police officers was pushed onto the ground and was beaten up by the group. He fired one shot in self-defense. Police later received a report that a male was shot by gun. We are very concerned about the situation. He's now in hospital and we are yet to reach him at this stage. But we believe his gun wound is related to the open fire incidents in Yunnan.
Voilà donc la superintendante de la police de Hong Kong. Faisons maintenant le point sur la situation avec Heike Schmidt pour RFI et notamment le rôle de l'homme d'affaires Li Ka-shing.
4 mois de manifestations avec leur lot de violence et de chaos urbain ont fait dégringoler les chiffres d'affaires des commerçants hongkongais. En août, les arrivées de touristes ont chuté de 40%. Les ventes au détail sont en baisse de 23%. Entre alors en scène l'homme qui veut sauver les commerçants de cette descente aux enfers. Li Ka-shing, dont la fortune est estimée à 30 milliards d'euros par le magazine Forbes. L'un des oligarques hongkongais les plus influents malgré ses 91 ans. On l'appelle Superman car son sens des affaires est légendaire. C'est lui qui a fait ses débuts dans le commerce de fleurs en plastique, a su ensuite profiter du chaos de la révolution culturelle lancée par Mao dans les années 60. Alors que les Hongkongais fuient la ville, il rachète leurs biens et bâtit un véritable empire immobilier. Li Ka-shing a toujours entretenu des liens étroits avec le Parti communiste, mais aujourd'hui, il est en froid avec Pékin qui l'accuse de nourrir la criminalité après avoir publié une série d'annonces dans la presse appelant le gouvernement hongkongais à mettre fin à la crise politique.
Et c'était Heike Schmidt pour RFI. La Nouvelle-Zélande célèbre aujourd'hui 250 ans d'engagement entre les Maoris et l'Europe après l'arrivée du capitaine James Cook. L'arrivée d'une flottille mi-pacifique, mi-européenne marque le coup d'envoi de 3 mois d'événements dans le pays. Certains dirigeants Maoris ont quand même appelé au boycott d'une partie ou de la totalité des événements du Tuia 250, affirmant qu'ils souhaitaient se concentrer sur ce qu'ils appellent les atrocités commises par le capitaine Cook, y compris un simulacre de procès. L'ancienne Premier ministre, Dame Jenny Shipley, ambassadrice du Tuya 250, a déclaré à TVNZ que l'occasion était propice à la réflexion. On l'écoute.
Tuya means united and bound together, not the same, but committed to working with each other. And it's not a right or wrong argument here. It's a let's listen to the critics. They've got something to say. But let's also listen to people who want to move forward because they have also got something to say. And that's what Tui is about.
13h08, vous écoutez le programme en français sur Radio SBS. Direction l'actualité en Australie maintenant. La mère d'une femme de Sydney qui est pour le moment dans un camp de réfugiés en Syrie. Elle supplie le gouvernement australien de laisser sa fille rentrer chez elle. Nesrin Zahab est entrée sur le territoire détenu par le groupe terroriste de l'État islamique. C'était en 2014. Elle avait été envoyée dans une maison pour femmes célibataires où elle a été forcée de se marier. Le combattant qu'elle a épousé a été amené en Irak par les forces américaine est condamnée à mort en 2017. Yam Zahab, la mère donc de Nesrin, s'est rendue en Syrie pour retrouver sa fille. C'était en septembre où ils ont été brièvement réunis après 5 ans de séparation. Le gouvernement australien a déclaré que certaines femmes précédemment mariées à des combattants de l'État islamique constituent ce qu'il appelle une menace sérieuse pour la sécurité du pays. Le ministre de l'Intérieur Peter Dutton a également annoncé un plan visant à retirer la citoyenneté des doubles nationaux reconnus coupables de terrorisme. Yam Zahab, donc la mère de Nesrin, a déclaré à SBS Arabic 24 que sa fille voulait simplement rentrer en Australie.
When I saw her, her face was covered with a veil. I hugged her, but she told me that she cannot feel her lower limbs. I tried to be stronger as I felt she was going to faint between my hands to hold her. She was crying. I was crying. Her baby was also crying. Let's say they were wrong and now they want to correct their mistakes. We all make mistakes. They are Australians. This is their home and they feel longing for it.
Voilà, donc 13h10, direction les États-Unis maintenant. Les comités des congrès chargés de l'enquête de destitution du président américain Donald Trump ont ordonné à la Maison-Blanche de remettre des documents à l'appui pour l'enquête. Le président Trump a déclaré que les démocrates avaient les voix pour destituer la Chambre, mais qu'il croyait qu'il gagnerait, entre guillemets, lors d'un procès devant un Sénat dirigé par les Républicains. On écoute Donald Trump.
The way they're doing it, they've taken away our rights. So if they proceed, and you know, they'll just get their people, they're all in line, because even though many of them don't want to vote, they have no choice. They have to follow their leadership. And then we'll get it to the Senate, and we're going to win. The Republicans have been very unified. This is the greatest witch hunt in the history of our country.
Voilà donc Donald Trump. En Afrique maintenant, le nombre de survivants de l'épidémie d'Ebola qui est en cours en République démocratique du Congo a dépassé 1000, donc le millier de personnes. La crise a débuté en août 2018 et la plus large jamais enregistrée dans le pays avec près de 3000 cas d'Ebola dont 2137 décès exactement. Stéphane Dujarric, porte-parole secrétaire général de l'ONU, a déclaré que les survivants d'Ebola et les nouveaux traitements avaient joué un rôle.
New treatments have improved survival rates of people infected with Ebola. According to a recent study, over 90% of people who receive treatment early enough during their illness can be saved. Vaccination has also protected over 225,000 people.
Un mot de sport maintenant. La FIFA, l'organe directeur mondial du football, vient de passer un accord de 4 ans avec l'Organisation mondiale de la santé pour promouvoir un style de vie propre. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré que le partenariat serait axé sur la prévention et l'éducation des jeunes. On l'écoute.
And you prevent where? You prevent in the schools when you educate children. When you go to them and you take a ball like that and you put the ball on the table. And you say, so boys and girls, today we speak about this, about football. And by the way, you know that in order, if you want to play football, you need to eat healthy, you need to be careful with the sugar and all this. These are the projects that we will do together.
Voilà donc Gianni Infantino, le président de la FIFA. On écoute également le directeur général de la World Health Organization, donc l'Organisation mondiale de la santé, qui affirme qu'en travaillant ensemble, les deux organisations peuvent atteindre davantage de personnes.
Having access to half of the world's population, it's a big deal. So we have to be in the pitch to really influence world population. Tobacco-free tournaments. And then we will move into the other areas together because one common factor we have now is keep the people healthy.
Voilà donc pour la FIFA et le football. Direction le rugby, NRL, Canberra qui tentera de bien mettre un terme à 25 ans de disette alors qu'ils affronteront les Sydney Roosters pour la grande finale donc, de rugby, c'est demain dimanche. L'ancien champion du Queensland, Jonathan Thurston, a déclaré que même si son cœur était avec les Raiders, donc Canberra, les Roosters étaient probablement trop forts.
I know that the Raiders are coming in as the underdogs, so they've got nothing to lose. They don't have much grand final experience, but in saying that, they've got a chance to create history. It'll be the first Raiders team in 25 years. I think the Roosters will be too good, but I'd love the storyline of the Raiders.
Voilà donc pour le sport, il est 13h13, coup d'œil météo pour aujourd'hui. À Perth, il fera 21 degrés, Adelaide 34, Melbourne 21, Hobart 17, Canberra 20 degrés, Sydney 20, Brisbane 29, Cairns 30 degrés et Darwin 34 degrés. Un rappel des grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. À Paris, l'enquête sur l'assassinat des 4 policiers au sein même de la préfecture donc de police a été requalifiée d'enquête terroriste. La situation à Hong Kong, là où les heurts continuent, les masques sont désormais interdits en public, ce qui n'a pas refroidi les foules. Et en sport, on vient de l'entendre, nous sommes à la veille de la grande finale de NRL entre Canberra et Sydney. 13h14, on fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre programme. A tout de suite.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.